qui donc est professeur de cardiologie, qui a très longtemps donc exercé aux États-Unis à New York, qui a commis un livre événement que tout le monde connaît, que vous avez la possibilité de vous procurer à la bibliothèque itinérante à THS, et qu'il aura bien évidemment l'amitié de vous dédicacer. Hein, je m'avance peut-être au cours de ce THS. À toi, Olivier.
Merci, Amine. Merci, Amine. Vous m'entendez ?
Oui.
Et bonjour à tous. Je voulais dire juste un tout petit mot d'introduction. D'abord, pour vous dire que c'est un privilège d'être ici à THS, et je remercie le docteur Bernard Dalloued. Et oui, en effet, je suis actuellement, j'avais été à l'université Cornell aux États-Unis. Maintenant, je suis professeur à l'université de l'État de New York, où j'ai été nommé en 2008 en raison de cette découverte que j'ai faite en 2004. Et ce qui est intéressant, avant de passer donc la parole aux présentateurs et aux intervenants, c'est que je voulais faire un bref commentaire. Cette session a quelque chose d'assez extraordinaire. Et la raison pour laquelle elle est extraordinaire, c'est que si on l'avait faite au moment où le livre dont, par exemple, le dernier vers dont Amine, elle aurait été quasi impossible. Quand mon livre est sorti, il y a eu un tollé et tout le monde a dit « Attention, il n'y a qu'une façon d'approcher l'alcoolodépendance, c'est l'abstinence. » Et c'était un dogme, mais un dogme tout à fait justifié. C'est-à-dire que si quelqu'un qui était alcoolodépendant prenait de l'alcool, on savait où ça menait, c'est-à-dire rechute et la mort. C'est une maladie à forte mortalité, comme vous le savez, 120 décès par jour. Et ça va très bien. Et qui affecte 10% de la population. Les traitements actuels, comme c'est publié un peu partout, sont les échecs sont d'environ 90%. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui marche. Pourquoi y a-t-il tant d'échecs ? En raison en particulier d'un phénomène, et ça a été bien montré, c'est ce qu'on appelle le craving, cette envie irrésistible de boire, et que le patient ne peut pas combattre, même dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'on peut le mettre en cure, le traiter par naltrexone, par tous les médicaments que l'on connaît, et néanmoins, le patient sera obligé de lutter. Il tiendra un jour, deux jours, parfois trois ans. La plupart du temps, dans les quatre ans, il rechutera dans 80-90% des cas. Moi, j'avais défini, puisque j'étais moi-même alcoolique, j'ai défini cette... je dis que le craving est une forme de torture. Il est impossible à vaincre au quotidien, et donc échec et mort. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2004, il m'est venu à l'idée que l'idée, depuis les années 90, c'était puisque le craving est responsable de la dépendance, si on réduisait le craving, et ça nous vient de Charles O'Brien, etc., 1991, il faut réduire le craving et ainsi on pourra réduire la maladie. Mais malheureusement, réduire la maladie ne servait à rien. Lorsque j'étais au fait de ma maladie, il m'est venu à l'esprit, en transposant à partir de modèles animaux où un et un seul médicament supprime la motivation à consommer de l'alcool, mais aussi du tabac, de la cocaïne, etc., etc., d'utiliser sur moi-même, j'ai fait donc une auto-expérimentation où j'ai finalement publié mon cas ensuite dans Alcohol and Alcoholism et JAMA, et dans laquelle c'était en fait le premier cas dans la littérature médicale de suppression complète de la dépendance, suppression donc rapide en quelques semaines, complète et sans effort. Est-ce que comme ça ? Ici ? Là, vous me dites ? Oui, voilà. Donc là, ça va. Donc, alors, lorsque j'ai écrit en 2004 mon article dans ces revues, j'ai demandé à ce qu'il y ait des essais cliniques. Malheureusement, il n'y en a pas eu. C'est là que j'ai décidé d'écrire ce livre grand public pour alerter en fait le public et les médecins et pour qu'ils sachent donc que le baclofène est une option. En France, malheureusement, il y a eu une attitude assez dogmatique, c'est-à-dire que les universitaires du domaine ont rejeté ça en bloc, ont dit non, il n'y a pas de miracle, on ne peut pas traiter l'alcoolisme avec un médicament, comme on l'avait dit pour la tuberculose, comme on l'avait dit pour les ulcères, et en fait, cela s'est avéré faux. En conséquence, ce qui s'est passé, il y a eu deux choses. À l'étranger, dès 2008, il y a une attitude qui était très pragmatique, c'est ben, on va essayer. Si ça marche, ça marche. Les Américains, les Anglo-Saxons sont pragmatiques. On voit si ça marche pas, on laisse tomber. Ça marche, ça marche. Ils ont vu que ça marchait. Ils se sont dit, À quoi bon faire des essais cliniques? C'est un vieux médicament qu'on utilise depuis 40 ans pour, pour des maladies, pour des troubles tout à fait bénins comme traitement de confort. Donc, et on n'a jamais demandé aux neurologues de faire des essais cliniques pour ces choses-là. Donc ils se sont dit, on va l'utiliser, ce qui fait qu'on a des séries à Chicago, à l'université de Chicago. J'étais invité à Harvard, à Chicago, partout. Et partout où j'allais, ils commençaient des séries. Il y a 300 patients traités à Chicago, dont 95% ont une suppression complète de leur dépendance à l'alcool, mais aussi à la cocaïne, au cannabis, au tabac, etc. Donc ça, c'est pour les États-Unis. Même chose en Grande-Bretagne, où j'étais soutenu. Même chose en Suisse, où récemment, la Société suisse de médecine d'addiction a affiché sur son site, j'ai donné un cours en janvier de cette année, a affiché, citation du professeur Olivier Mézen, l'abstinence est une torture. Et ça, c'est pour que les gens réalisent bien que l'abstinence n'est pas quelque chose que l'on peut demander à quelqu'un. C'est comme de demander à quelqu'un d'arrêter de souffrir lorsqu'elle souffre. C'est difficile quand on ne l'a pas vécu. Ce qui s'est passé en France est que, puisqu'il y a de la part des addictologues, ce refus de traiter et le refus de faire des essais cliniques, les patients se sont automatiquement tournés vers les médecins généralistes. Et tout médecin généraliste peut prescrire le baclofène, c'est ce qu'il fait. On en a un exemple ici, le docteur Jousseau, il y a le docteur Bronner. Et ce qui fait que maintenant, si vous avez un proche qui a une addiction, que ce soit à ceci ou à cela, vous l'envoyez chez votre médecin généraliste et les succès s'accumulent. Voilà. Donc c'est devenu, en France en tout cas, une maladie de médecine générale. Je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Décidément. Oui. Voilà. Donc, tout généraliste peut le faire, et ça se fait. Je signale au passage quand même que, et ça sera ma dernière réflexion, qu'en France, il y a un mois à peu près, Bernard Debré, qui, comme vous le savez, est professeur, chef de service d'urologie et président et membre du comité consultatif national d'éthique, a publiquement demandé au ministre de la Santé, Xavier Bertrand, lui a précisé qu'en France, il y avait déjà plus, seulement en France, et seulement pour l'alcoolisme, il y avait plus de 50 000 patients traités. Il lui a dit qu'il y avait urgence à propager ce traitement qui véritablement sauve des vies. Mais voilà, maintenant, donc, je serais heureux d'entendre les intervenants, et d'abord notre modérateur, je crois, le docteur Jousseau, et je vous remercie.
Merci beaucoup, Olivier. Donc, on aura l'occasion de revenir évidemment sur ton expérience, qui est importante, sur la manière avec laquelle le produit
marche.
Le produit est perçu ailleurs qu'en France. Alors,